8h56, avant d'aller voir ce qui se passe sur la route, dans les prochaines secondes, on aura le plaisir de jaser avec Marc-Antoine Reid, planificateur financier pour IG Gestion de patrimoine. On va parler de relations de couple, de séparation. Je sais pas, s'est-tu transformé, Marc-Antoine?
Je sais pas.
Est-ce qu'il change d'emploi?
Mais là, novembre, commence à faire noir de bonne heure, fait frette, puis il va nous parler de séparation.
Ouais.
OK, les couples, on veut pas que vous vous sépariez. Ben, restez ensemble.
Moi, les célibataires m'ont dit, là, un mois et demi, qui préparaient leur hiver. Fait qu'ils cherchaient quelqu'un pour passer l'hiver.
Pour pouvoir être en cocooning avec une petite doudou sur le divan collé.
Mais Max est là-dedans, là.
Mais encore là, si t'es en couple puis tu veux que ça finisse, fais ça là, avant qu'on soit trop proche de Noël puis que tu puisses plus le faire.
Ouais, parce que là, donner un cadeau de Noël...
Puis que c'est chiant aussi de faire ça le 23, là.
Il y a déjà une personne que je connais qui s'est séparée le 2 janvier. Mettez le premier, pour montrer comment les médias sociaux, des fois, ça représente pas la réalité. Le 1er janvier, c'est les grosses photos de famille. Ah, je t'aime, je suis tellement heureuse en famille. Puis le 2 janvier, c'était ciao, bye.
Les vacances de Noël sont finies, on dégage. OK, 88-971-1021, 88-971-1021, sur la route, Max?
Ça va beaucoup mieux, reste l'accès aux pompiers à la porte où c'est encore pas pire jamais quand t'arrives par la 73, direction nord.
Marc-Antoine Reid, comment vas-tu?
Ça va très bien, vous trois?
Ça va très bien, oui, ça va très bien. Tu me parles de séparation. Est-ce que tu me parles de séparation de gens qui étaient mariés, divorcés, ou tu me parles de gens qui étaient considérés comme conjoints de fait?
On va dire conjoints de fait parce qu'on pourrait s'embourber. Là, je veux pas toucher l'aspect légal, puis patrimoine familial, puis tout ça. Je veux toucher, dire, ça fait longtemps que tu es en couple, puis tu es bien installé, tu as ta maison ensemble.
Ouais.
D'un point de vue financier, là, c'est quoi les gestes qu'il faut que tu poses? Ce serait quoi une recommandation financière si tu passes à travers cette situation-là? Puis, comme vous l'avez une belle introduction pour le sujet que vous avez fait, ça arrive quand même assez souvent. Hein?
Ouais,
des séparations, okay, c'est assez fréquent.
Ben, y a des séparations qui sont extrêmement douloureuses. Il y en a d'autres qui se terminent en toute bonne amitié. Ceux-là, on les aime, ces séparations-là.
Ouais, plus facile, hein?
Je sais que dans les dernières années, en fait, ces derniers mois, Sonia Lebel avait mis en place une nouvelle procédure là, pour ce qui est des séparations quand ça impliquait des enfants. Les conjoints de fait.
Oui, ça serait un sujet qui serait bon à recouvrir.
Ils ont mis ça en place pour protéger, bien sûr, les enfants.
Exact.
Et ce avec quoi je suis tout à fait en accord, le patrimoine et tout ça. Mais oui, les séparations, ça peut coûter cher. T'sais, le mariage puis les conjoints de fait, ça peut coûter extrêmement cher.
Le mariage encore plus, mais là, ça sera un autre sujet de chronique parce qu'il y a un patrimoine familial puis il y a deux régimes matrimoniaux qui ont des conséquences là, sur la façon qu'on va séparer les biens après le mariage. Mais conjoint de fait aussi, ça a beaucoup d'implications. Là. Tu sais, si on pense que c'est quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il vit avec une autre personne, la plupart du temps, il va avoir acheté une propriété avec cette personne-là. Il va avoir eu des enfants. Donc, ceux qui ont eu des enfants, tu sais, il y a un certain temps, ne sont pas couverts par la nouvelle loi. On en fera un sujet là, distinct pour une chronique. Donc là, il y a plein de choses à faire. Ça fait que je vous donne une couple de trucs. Là, j'ai divisé ça en catégories là, de gestes à poser. Des petites aides mémoire, probablement des choses que vous auriez oubliées. Là, pour, si je me faisais rire avec ton 2 janvier là, pour madame ou pauvre monsieur, elle savait pas parce qu'elle faisait partie des résolutions nouvelle année.
J'ai déjà le titre de ce podcast-là. On va mettre Marc-Antoine dans le trouble. Marc-Antoine Reid, planificateur financier. Voici les meilleures façons de vous séparer sans
tout
perdre.
Oui, c'est bon ça!
Le bureau des plaintes est ouvert.
C'est ça. Ben, en tout cas, conjoint de fait, c'est sûr qu'il y a moins de partage de trucs à la base, mais il y a quand même beaucoup de décisions à prendre. La première recommandation que je ferais, c'est de faire un bilan. Faire un bilan de ces choses et surtout se faire un budget. Parce que là, il y a plein de choses qui vont changer dans les dépenses. Là. Mon deuxième point, c'est qu'il va falloir prendre des décisions au niveau de l'habitation, de la propriété. Mais faire un budget, c'est important. Pourquoi? Ben, vous le savez, je pense les deux, je me trompe pas, les deux, vous êtes passés par là il y a quelques années.
Oui.
Ouais. Bon, tu sais, il y a plein de dépenses que tu payes à deux, là, tu sais, quand tu restes
clairement
avec ta conjointe et tout ça. Puis, oups, là, tout d'un coup, là, ces dépenses-là vont être seules. Puis, c'est pas le conjoint séparé, bien, ils vont les faire chacun de leur côté. Là, c'est pas vrai qu'on les divise en deux. Là, il y en a donc le total des deux augmente.
En effet.
Par contre, on y pense un petit peu moins, mais il y a aussi de l'aide fiscale. Parce que la plupart des crédits sociaux fiscaux sont basés sur le revenu familial. Donc, quand tu te sépares, ton revenu familial, il baisse.
Ben
donc, l'aide de toutes sortes de crédits, là,
je me suis retrouvé avec de l'allocation parentale, moi.
Ben, c'est ça, exact.
Ah, oui.
Parce que là, ton revenu, à la place d'être celui le tien puis celui de ton ex-conjointe, ça devenait
Exactement.
Le tien pour toute la famille.
Ben oui, puis là, moi, j'étais pauvre, je travaillais dans le communautaire.
Ouais.
Le gouvernement m'a aidé avec mes enfants.
Fait que t'acceptais. Ben, en fait, oui, c'est ça. T'avais une aide supplémentaire.
Puis là, donc là, moi, un des petits trucs que je donne, tu sais, qui est un peu de frais, mais qui aiderait à faire un budget éclairé, parce que oui, c'est peut-être un petit peu plus facile d'estimer les dépenses que tu vas avoir en plus, mais ça, c'est plus nébuleux un peu, monsieur, madame, tout le monde. Tu peux rappeler ton comptable, puis dire fais-moi mon rapport d'impôt de l'année dernière, puis mets-moi célibataire dessus.
Ah, c'est vrai.
Fait que là, tu vas voir, dans le fond, la quantité d'impôt que tu as payé l'année précédente, puis la quantité d'impôt que tu aurais payé si tu avais été seul. Avec tous les crédits sociaux fiscaux. Ça fait qu'au moins, oui, c'est sûr que les dépenses l'emportent sur les crédits, mais au moins, ça contrebalance un peu, puis tu prends une vision éclairée pour t'aider dans tes décisions financières là, qui sont importantes, puis il y en aura plein là, suite à la séparation.
Moi, j'ai continué aussi à verser le même montant en REER. Ça fait que ça revient dans ton rapport d'impôt beaucoup plus profitable parce que tu n'es plus dans un salaire... commun, tu es dans un salaire individuel.
Bon point, c'est à analyser. Par contre, dans certains cas, ça ne serait pas le cas. Mais oui, mettons, si tu as les enfants en charge, là, mm-hmm. particulièrement, là, donc on va en reparler pendant la période REER, mais le retour d'impôt d'une cotisation REER, c'est pas juste le crédit d'impôt ou le retour de l'économie d'impôt, c'est aussi que ça baisse ton revenu familial.
Exactement.
Puis là, ça booste ou ça augmente, si on veut, plein d'autres crédits sociaux fiscaux. Donc, dans certains cas, là, ça peut aller jusqu'à 75-80% dans certaines strates de revenus puis certaines situations, particulièrement si tu as des enfants en bas de 6 ans. Là, c'est un âge-clé à retenir. Donc, bon point, mais quand même à analyser avant de jumper ou avant de le faire de façon automatique.
Mais pour les cheap comme moi, là, c'est-tu plus payant à être célibataire ou conjoint de fait?
Bien, c'est sûr que ça dépend. Mettons, on va dire tout le temps la fameuse réponse, ça dépend. Si tu
l'imagines-tu, ces discussions avec sa blonde?
Puis là, je veux pas être sexiste.
Hey, chérie, ça dépend. Chérie, on va-tu manger au restaurant ce soir? Bien, ça dépend. Ça dépend de quoi? Bien, ça dépend. On va regarder est-ce que les Blue Jays jouent à la télé ce soir.
Qui paye?
Ouais, c'est
mettons
ça.
Quelqu'un dans un couple qui payait déjà tout, s'il tombe célibataire, ça va coûter moins cher parce qu'il va avoir les crédits d'impôt en plus.
Ouais.
Par contre, la plupart des couples, ils partagent les dépenses.
Oui.
Les crédits sociaux fiscaux, ça ne sera jamais suffisant dans presque tous les cas pour compenser toutes les dépenses qui vont devoir être faites tout seul, dont ceux reliés à l'habitation. On en a parlé la semaine dernière, comment c'était plus difficile de devenir propriétaire. C'est une décision importante. J'y reviens dans un petit instant. C'était comme mon deuxième point, les décisions liées à ça. Le dernier point, face au budget, on parle souvent de l'importance d'avoir un fonds d'urgence. Quand tu es tout seul, c'est encore plus important parce que tu n'as pas de béquille sur qui t'appuyer.
Mettons, en effet.
Yannick, tu étais avec ton ex. Si ta blonde, si toi, tu avais perdu ta job ou ton ex, vice-versa, ben, pendant un certain temps, elle t'aurait aidé avec son salaire. Là, si tu es tout seul, ben, là, tu peux pas appeler la fille avec qui tu as soupé vendredi soir. Je connais pas ta situation.
Hey, salut, on a soupé vendredi soir. On a vraiment une belle soirée. Hein. J'ai des pneus d'hiver à acheter 2000$.
C'est ça, j'ai un petit coup dur.
Mais oui, ben, tu sais quoi, j'ai jamais été dans cette situation-là. Mais oui, tu sais, quand tu es deux, tu as un support de l'autre côté, autant pour l'homme que pour la femme. Mais on a comme tendance, on est peut-être un peu trop orgueilleux. Là, si ça ne va pas nécessairement bien financièrement, au lieu de demander de l'aide, on va peut-être trouver un autre emploi le samedi et le dimanche.
On est orgueilleux de même.
Ça pourrait arriver de dire hop, ça, je suis un peu plus serré ou je viens de perdre ma job, on ne sort pas ce soir, puis que ta blonde a dit regarde, on va sortir, je te l'offre.
Ça peut arriver.
C'est un exemple. Là, mais oui, tu as raison, ça peut arriver qu'on garde ça pour nous autres. Ou
on est mal fait.
Ouais, c'est ça.
On est mal fait. Mais les jeunes sont plus. On dirait qu'on les a éduqués à demander de l'aide plus rapidement. Tandis que nous autres, on a été élevés par des plus vieux. Fait que quand t'es dans la merde, organise-toi pour sortir
d'orgueil,
de la merde.
Un peu plus encore du côté masculin.
Ben oui, c'est ça. On est mal fait.
Ouais, c'est ça. Donc, fonds d'urgence, c'est encore plus important. Malheureusement, c'est un des moments où c'est plus difficile à constituer là, parce qu'il va y avoir toutes sortes de dépenses.
Tu donnes quoi, 3 mois ou 6 mois, le fonds d'urgence?
On dit 3 à 6 mois. Tu moi, en tant que planificateur financier, je dis ça dépend de plein de facteurs. Si tu as une job, ça dépend. Mais si tu as une job qui est une belle carrière, tu as une job,
assuré.
Steady ou assuré, un peu moins. Après ça, si tu as de l'équité sur ta maison et tu as une marge de crédit hypothécaire, bon, c'est sûr, on ne veut pas s'endetter. Mais tu n'as pas besoin d'aller jusqu'à 6 mois non plus. Tu as accès à une ressource. T'sais. Fait que ça prend du cas par cas. 6 mois toute ta vie, là, 6 mois de dépenses, si tu fais ça fois le principe des intérêts composés, ça fait beaucoup d'argent là, sur toute une vie que tu laisses sur la table. Fait qu'il faut le doser si on veut, mais il est plus important assurément quand tu es célibataire. Maintenant, l'habitation et le logement, c'est une grosse décision. Tu te sépares, particulièrement si c'est des enfants. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y en a un des deux qui garde la maison familiale? Est-ce que celui qui veut la garder, y a-t-il les moyens de la payer tout seul? Parce que là, il va falloir qu'il recogne à la banque et dire, ben écoute, je veux enlever mon ex-conjoint de sur l'hypothèque. Quand il y a de l'équité sur la maison, l'ex-conjoint, il a droit à son équité. Ça fait que dire, ben faut que je te redonne, mettons, 50 000, tu sais, puis j'augmente l'hypothèque, tu sais, puis tout ça, est-ce que je passe au ratio?
Ouais, mais ça, tu conseilles quoi, Marc-Antoine, à tes clients? Parce que, tu sais, j'ai pas toujours été vite dans la vie, là. J'ai fait des mauvais coups, mais j'ai fait aussi des bons coups. C'est que quand j'ai eu la chance de choisir une maison avec la mère de mes enfants pour s'établir, ben on avait un montant qui nous avait été offert qui était beaucoup trop exorbitant. Là. On n'aurait même pas été capable de manger. Puis j'ai dit, regarde, on va baisser nos attentes. Puis si jamais il y a séparation dans 5 ans, dans 10 ans, mais il y en a un des deux qui va être capable de payer à la maison. Ouais. Parce que souvent, les gens vont mettre leur salaire ensemble, ils vont aller à la caisse pour dire ouais. « Hey, comment on peut emprunter? » Puis là, tu as des chiffres comme 6, 7, 8, 9, 100 000, tu sais. Mais le jour où il y a séparation, là, tu veux pas être pogné pour rester avec ton mari ou ou ta femme parce que tu n'as pas les moyens d'habiter de seul.
Non, c'est ça.
C'est de la dépendance, ouais, ça, là.
Absolument. Bien, il y a eu une belle décision dans tout ce que tu as raconté. C'est-à-dire, tu as été un petit peu plus modeste que ce que la banque était prête à prêter.
Cheap.
Ça, je le recommande en... Je la recommande à seul ton ex pourra nous le dire. mais ça, je la recommande. Tu sais,
vraiment.
C'est un bon move, mais il y a quand même quelques éléments dans le contexte aujourd'hui que même malgré la sagesse dont tu as fait part, tu aurais peut-être plus de misère à avoir la même sagesse aujourd'hui. Le prix des maisons il a augmenté beaucoup. Tu as parlé de 5 à 10 ans. Tu es resté 5 à 10 ans avec, mais tu sais, qu'est-ce qui serait arrivé si ça n'avait pas fonctionné tout de suite en partant, puis deux ans après, tu la vends. Tu sais, peut-être que ça aurait été plus compliqué quand l'un des deux la garde.
Ils ont été 16 ans ensemble.
Ouais, c'est ça. Ça fait que là, ça a aidé. Là, tout, le mélange de ta bonne décision puis du contexte a fait que tu sembles dire qu'il y en a un des deux qui a gardé la maison. Dans certains cas, c'est pas possible. Ça fait que tu sais, je vous recommande de réécouter la chronique de la semaine dernière. Parce que si tu n'es pas allé trop loin dans ces ratios puis de consulter quelqu'un, c'est pour être justement pour être capable de dire est-ce qu'il va me rester de l'argent pour vivre? Parce que la vie, c'est pas juste payer mes frais d'habitation. Je vous rappelle aussi, j'ai fait allusion la semaine dernière, que ça fait quelques années maintenant qu'on peut rapper si certaines conditions sont respectées lors d'une séparation. Il faut que ça fasse plus de 90 jours qu'on est séparé. Ça, c'est facile à arranger si on se laisse le temps. Puis on peut retirer 60 000, mais à condition qu'on ne soit pas encore en train de rembourser un précédent RAP, là, qu'on ait fini de rembourser notre RAP. Mais ça, c'est un beau plus qui peut permettre d'aller l'équité si on a des RAP ou une solution de plus. L'autre chose que je donne comme conseil là-dessus, j'y ai fait un petit peu allusion la semaine dernière. N'oubliez pas, je parle souvent des gens qui se séparent. Puis là, ben, les membres du couple disent moi, je veux pas payer dans le vide. je prends ma voix, là. Ah, ben non, je veux pas payer dans le vide.
Dans le vide, dans le vide, je m'en rajoute de quoi.
Les gens ont vu la valeur de leur maison augmenter, puis tout ça, puis ils disent payer dans le vide. Mais moi, je t'amène la réflexion de dire t'es dans un contexte, si tu viens de séparer, où est-ce que ta situation peut. La vie change, puis elle peut encore plus changer. Tu peux rencontrer quelqu'un qui a des enfants pas longtemps après. Oups, la résidence que tu as achetée, elle convient plus. Tu peux avoir quelqu'un qui veut tout simplement un projet commun avec toi. Il y a toutes sortes d'affaires qui peuvent. Tu peux rencontrer quelqu'un qui reste un petit peu plus loin aussi, tu sais. Là, ça fait plus non plus. Et là, on a tendance à faire du copier-coller, un contexte où est-ce que l'immobilier était favorable, qui pourrait continuer, mais qu'il faut quand même prendre nos décisions de dire ben qu'est-ce qui arrive si je suis obligé de la vendre dans deux ans. Il faut que je paye le frais de l'agent, les frais de déménagement. On a fait référence à une potentielle taxe de bienvenue quand tu achètes une nouvelle propriété. Fait que ça, tout ça peut faire que tu perds beaucoup d'argent. Ça s'appelle pas ça payer dans le vide, cette situation-là arrive, d'avoir pris un logement, le temps de laisser la poussière se redéposer.
Moi, j'ai fait les deux. Tu sais, je me suis racheté un jumelé à la séparation, puis finalement, je l'ai revendu après 4 ans. J'avais plus beaucoup de pénalités à payer sur mon hypothèque pour aller un an en appartement. Puis là, je viens de me racheter une maison avec ma conjointe. Puis honnêtement, si c'était à refaire, je serais allé en appartement entre les deux. Tu sais, j'aurais pas acheté un jumelé.
Puis peut-être que je connais pas la situation quand tu as vendu jumelé pour aller en appartement.
Oui.
Mais si tu avais acheté une autre propriété, tu aurais une vente un an après. Peut-être que ça ne serait pas bien passé là, cette année-là.
T'as entièrement raison.
J'ai une question d'Alex qui nous texte au 418-971-1021. Il dit « J'aimerais ça savoir, la maison dans la séparation, est-ce que le rachat doit se faire selon la nouvelle valeur de la maison? Car le prix, il y a de 5 ans, est plus bas que la nouvelle valeur de la vente. » Bien sûr. C'est au goût du jour, parce que c'est toujours plus rentable pour toi de dire « Hey, on a acheté la maison en 2015, moi, te la racheter que le prix de 2015. » Non, non. La personne qui va faire ce deal-là, qui va rester avec la maison, est pas mal plus gagnante que l'autre. Fait que, dans le fond, il faut faire évaluer la maison. Il faut regarder l'évaluation municipale, il faut faire évaluer la maison par un évaluateur expert, pas ton beau-frère. Puis après ça, ben, ça va être de négocier avec le conjoint ou la conjointe.
Exact. Mais je vois quand même des situations, tu as tout à fait raison. Je veux dire, ce ne serait pas logique, mettons, de prendre le prix, la valeur des 5 ans. Là, celui qui garderait la maison serait largement avantagé.
Ouais.
Mais n'empêche que n'importe quelle entente est valable. Là, si la personne a dit « moi, je veux pas me chicaner, je veux rien entendre », j'en vois des situations où est-ce que... qu'il n'y a pas tant de logique, puis la personne qui se sépare, elle n'a pas la moitié de ce qui était accumulé.
Puis tu sais, on dit, ouais, c'est bien de se séparer dans la paix et la bonne volonté, là, ouais, mais les gens qui se sont le plus fait avoir, c'est les gens qui ont acheté la paix. Puis la paix, ça,
oui,
coûte cher.
Ben oui, la paix, ça coûte cher. Ouais.
Tu sais, on disait, ben regarde, t'as pas les moyens de racheter la maison, on va te faire un deal de 20 000. C'est toujours bien toi qui perds le 20 000.
Non, c'est ça, exact. Mais ta réponse était quand même bonne. Là. Mettons, s'il y a quelqu'un qui serait tenté d'acheter la piste, ça serait la bonne façon de faire ce que t'as dit d'évaluer la maison.
Parce que c'est cruel d'obliger l'autre, parce que tu te sépares, c'est cruel d'obliger l'autre à vendre la maison. Mais à un moment donné, t'as juste pas le choix.
Ouais, c'est ça, exact. Ouais. C'est ça, mais en fait, tu l'obliges pas. Tu donnes des conditions qui sont faires. Je dis, s'il n'est pas capable de racheter ta moitié à la valeur qu'elle a, tu sais. Lui ou elle aussi, il faut qu'elle déménage.
Ben, j'ai des histoires que je pourrais te raconter où des gens décident de ne pas vouloir vendre la maison parce qu'ils ne veulent pas que la conjointe s'en aille. Ah, ils ne veulent pas que le conjoint s'en aille.
Puis des fois, le rationnel, il s'envole pendant un certain temps.
Oui, ça, c'est de l'émotion.
Après,
oui,
ça, je vais un petit peu plus vite pour les autres recommandations. De faire la liste de ses engagements communs. Une des choses que je recommande là-dessus, sortez votre dossier crédit, mettons avec Equifax. Vous allez voir, des fois, vous avez acheté des meubles, crédit conjoint, des trucs comme ça. Il faut que vous fermiez ça. Que vous entendiez bien ou moins bien pendant la période de séparation, c'est juste une bonne pratique. Tu changes tes mots de passe, tu enlèves les affaires qui sont conjointes, tu enlèves le conjoint dessus, tu sépares tes choses. Tu ne veux pas être responsable des actes de ton ex ou de ex-e ou ex par la suite. Tu n'es plus là pour veiller au grain. Tu ne sais pas comment ça va se passer par la suite. Tu ne veux pas qu'il brise ton dossier de crédit ou qu'il affecte ton nom ou qu'il y ait des conséquences sur toi dans le futur. Ou si vous êtes en mauvais terme, qu'il fasse des choses pour nuire aussi. Fait que sortir de dossier de crédit, des petites choses que les gens oublient là-dessus, les régimes enregistrés d'épargne-études, souvent c'est conjoint. Le capital qui est dans le régime épargne-études, il appartient au constituant. Fait qu'une bonne façon de régler ça, c'est si, mettons, que les deux ont cotisé, bien, c'est d'en ouvrir deux puis séparer le capital. Ou, mettons, que je vois souvent la situation, il y en a un des deux qui a cotisé au complet, bien, il parle à son conjoint, sa conjointe, de dire « Est-ce correct qu'on va régler ça? » Donc, il en enlève le nom du conjoint qui n'est plus là. T'sais. C'est le même bénéfice pour l'enfant, mais au moins, le capital, il ne reste pas suspendu à une vieille histoire d'amour, une histoire d'amour qui est révolue, si on veut.
Nos parents, nos grands-parents mettaient tout l'argent dans le même pot, puis le salaire de monsieur, le salaire de madame, ça arrivait dans ce compte en banque-là, puis quand t'en avais besoin, ben, tu pigeais dans ce compte en banque-là. Aujourd'hui, tu conseilles quoi à tes clients?
C'est de moins en moins le cas. Là. Je vois souvent, les salaires arrivent dans un compte distinct, puis il y a une espèce de pot commun selon une entente que le couple a.
Pour les paiements courants de la maison.
Pour les paiements courants de la maison et autres. Là, donc là, ça, c'est propre à chaque couple. Moi, ce que je recommande, c'est d'avoir une bonne communication là-dessus. Là. Surtout, c'est quand même une des causes de chicane.
L'argent?
L'argent dans les couples, là, c'est dans les principales causes. Puis des fois, ça ne l'est pas, puis ça s'accumule, puis ça en devient une plus tard qui est encore plus grosse, tu sais, quand tu as des mauvaises habitudes qui ont été prises ou des frustrations qui ont été prises.
Tu as un pote commun, Jeff. Elle a vu une sacoche, toi, tu as vu un char sport que tu voulais.
C'est ça, c'est pas la même affaire.
Chacun pige de son bord.
Je ne vais pas faire de politique puis de mauvaises analogies, mais on voit des fois qu'un pote commun, ça mène pas toujours à des décisions efficientes.
c'est souvent celui aussi celle qui contribue le plus, qui est perdant dans l'aventure.
Ben oui, c'est
deux
clair.
Petites choses pour terminer. Oui. Important de faire son changement, tous ces changements d'adresse au gouvernement et changer son statut. Si vous voulez bénéficier...
Ça, sur Facebook, vrai. Tu veux dire?
C'est très bon. J'ai moins de conseils, j'ai pas d'expérience à ce niveau-là. J'ai moins de conseils. On faisait des blagues tantôt, hors d'onde. J'ai moins de conseils sur cette partie-là parce que, sans aller trop loin, je soutenais qu'aujourd'hui, ça doit être moins coûteux d'être célibataire qu'à l'époque, mais j'ai pas d'analogie. Là,
ouais,
Maxime.
Ben là, Max, il nous parle du coût de Tinder Premium, puis je te dirais que ça coûte cher en bataille.
Ouais, c'est ça.
Donc, on change l'adresse, on change le statut si on veut avoir les crédits sociaux fiscaux, puis si on veut être en règle aussi. Dernier point qu'on oublie souvent, nos fameuses assurances. Donc notre cœur a changé, d'avoir une réflexion de dire ben, comment on voudrait que ça se passe s'il nous arrive quelque chose. Souvent, les gens laissent leur ex comme bénéficiaire sur leur assurance très longtemps. Bon, c'est sûr que l'ex, s'il y a des enfants, il y a un intérêt à ce que l'enfant manque de rien. Mais n'empêche que c'est pas nécessairement notre, notre désir. Puis on n'a plus le contrôle par la suite si l'argent va vers notre ex ou il y a un autre conjoint. Dans le... Donc, de changer ses bénéficiaires au niveau des assurances et du testament. Révision testamentaire aussi, c'est une chose qui est super importante à faire en cas de séparation.
Toujours un plaisir, Marc-Antoine Reed, planificateur financier pour IG Gestion de patrimoine. On te retrouve à quel endroit?
Facile à rejoindre, un numéro sans frais qui illustre bien ce qu'on fait comme travail, c'est-à-dire des plans financiers, de la planification financière, 1-833 ton plan. Sinon, vous pouvez nous retrouver en googlant équipe Marc-Antoine Reed, REID, vous allez tomber sur notre site internet, vous pouvez prendre contact avec nous aussi. Puis, même quand je suis occupé, je me fais un devoir de rappeler moi-même les gens là, qui prennent contact là, pour au minimum avoir une brève conversation avec eux. Vous pouvez réécouter les chroniques aussi là, qui sont présentes quand même plusieurs semaines là, sur votre site aussi.
Application Boulevard ou encore sur blvd.fm. Merci beaucoup, Marc-Antoine.
Ouais, merci.
À la semaine
bonne
prochaine.
Semaine. Salut, bonne semaine. Marceau le